La question de départ, qui pourrait nous occuper de la même façon, ça pourrait être « qu'est-ce qu'autrui pour moi ?» Il est ce sujet de conscience que je ne suis pas, il est ce moi qui n'est pas moi, puisque chaque sujet vit dans un monde qui est le sien et qui est centré autour de son corps propre. Alors qu'est-ce qui me permet de faire la distinction entre moi et autrui ? Eh bien, du point de vue de la conscience ordinaire, les autres sont là, en leur présence, anonymes, qui s'imposent comme une évidence régulièrement. Je les rencontre sans arrêt, j'en ai encore rencontré des autres sur la route, les passants anonymes, les membres de ma famille, les voisins, les collègues de travail. Et cette présence constante de l'autre s'impose à moi jusque dans les lieux les plus privés, là où justement je cherche à lui échapper, les voitures qui passent, qui me réveillent la nuit, la radio à fort volume, le bruit de pas d'enfants qui martèlent le plafond. Je parle beaucoup de mes voisins, j'essaye de moins parler de ma femme la dernière fois, j'ai beaucoup parlé de ma femme, je vais me venger sur mes voisins. Bien, donc voilà, autrui est partout, présence un peu insaisissable, mais du coup les autres m'apparaissent souvent comme ceux avec lesquels je partage bon gré et mal gré le monde dans lequel je vis. Sans les autres, il me semble que je serais entièrement libre, je serais complètement libre, et de ce point de vue-là, on pourrait imaginer qu'ils sont d'abord une limite à l'expansion de mon être. Les autres sont une limite, puisque c'est ce qui me contraint, ce qui me contrarie, ce qui est un poids. Alors la psychanalyse, je fais aussi la filiation par rapport à ce que je disais la fois dernière, il y aura des récurrences, mais si vous venez pour la première fois, rassurez-vous, ce ne sera que des clins d'œil. La psychanalyse situe très tôt cette prise de conscience. L'autre, c'est pour moi d'abord le père qui détourne une partie de l'attention maternelle. C'est le frère qui vient de naître et qui exige une partie de l'amour qui me revenait jusque-là entièrement. Bon, etc. Mais les autres, c'est évidemment pas seulement ça, c'est aussi la mère, hein, c'est quand même la première rencontre que je fais en venant au monde, avec qui la relation prend la forme d'une nourriture essentielle. C'est aussi le frère qui, de rival, devient complice. C'est le père qui sert de modèle. Bref, si autrui est aussi important pour moi, c'est qu'il est profond, qu'il est complexe et qu'il ne ressemble pas au reste du monde, c'est-à-dire aux objets qui m'entourent, puisqu'il est véritablement un sujet. Et à ce titre-là, il répond vraiment à un besoin fondamental, celui d'une communication authentique. Et pourtant, revenons au point de départ, il est vrai que cette authenticité est plus souvent l'exception que la norme. Les autres sont une présence permanente à l'intérieur de mon univers, et pourtant, ça ne m'empêche pas, en général, d'éprouver au milieu des autres un sentiment de solitude. Allez, si vous ne me croyez pas, faire les courses actuellement à la part Dieu, vous aurez les autres de partout, et un sentiment de solitude absolu. Ça arrive aussi dans le métro. Enfin bref, on ne va pas commencer à filer les exemples, mais voilà, les autres ne sont pas d'emblée la voie nécessaire vers une relation authentique. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que rencontrer les autres, ce n'est pas le plus souvent rencontrer autrui, mais tel personnage qui joue un rôle social ou familial, où tout échange est déjà codifié à l'avance. On reviendra là-dessus, je ne vais pas m'étendre pour l'instant sur ce point. Mais en raison de cela, de ce rôle familial, social, professionnel qu'on joue en permanence, eh bien, tout échange semble comme codifié par avance. D'où un sentiment de frustration. On aurait tort cependant de considérer cette frustration uniquement comme un état négatif. Elle manifeste aussi une exigence de notre part vis-à-vis de notre relation à l'autre. C'est le signe d'un éveil possible de la conscience et surtout un refus des relations standardisées, un appel à autre chose, à une authenticité qui serait plus profonde. L'enfer est-ce les autres ? Derrière cette question accrocheuse, oui, on a essayé de tourner la question de façon à ce qu'elle soit la plus accrocheuse possible, qui rappelle Sartre, mais vous le savez. Donc derrière cette question se cache un douloureux problème qu'on va essayer de résoudre en trois temps. D'abord, on va essayer de montrer ce qui pose problème dans notre relation ordinaire à autrui et qui rend justement ce rapport, le plus souvent infernal. Ensuite, on va évoquer la nécessité de cette rencontre d'autrui. Nécessité. Donc, autrui se révélera indispensable, mais ça ne veut pas forcément dire que pour autant on sort de l'enfer. Hein. Cela ne nous délivre pas forcément du soupçon de la question. Autrui peut être indispensable sans forcément rendre ma relation paradisiaque. Et enfin, nous essaierons d'envisager non plus simplement autrui, dans sa généralité, mais l'autre, et de montrer par là ce qui se joue dans une relation véritable. Bien. Donc, commençons en évoquant justement ces difficultés à entretenir un rapport authentique avec autrui. Donc, on va partir sur ce présupposé que l'enfer est « c'est les autres ». Alors, pour satisfaire ce besoin essentiel d'authenticité, il va me falloir traverser un certain nombre d'obstacles, aussi bien dans la vie sociale qu'en moi. Le premier obstacle qui semble s'imposer, ce sont les obstacles sociologiques, c'est-à-dire la superficialité des relations ordinaires de l'homme. Le plus souvent, les hommes sont plongés dans des relations ordinaires. Pourquoi ne sont-elles pas authentiques ? Parce que, tout simplement, elles sont très codifiées. Elles sont médiatisées par des rôles sociaux, professionnels, familiaux, etc., comme je le disais tout à l'heure, mais on va approfondir ce point. Pourquoi est-ce que ces relations sont codifiées ? Pour un certain nombre de raisons qu'on va essayer de voir. Mais, en tout cas, ce qui apparaît, c'est que, dans la plupart de nos relations, domine l'indifférenciation des personnes, et tout cela s'accompagne d'une espèce d'indifférence quant à celui qui se trouve derrière l'homme de métier, ou derrière le client, d'ailleurs. Alors, un exemple emblématique, mais trop peu souvent lu, alors je vais me permettre de le lire, parce que du coup, je relisais l'exemple de Sartre, hein, l'exemple du garçon de café, qui montre très très bien cette codification. Et en fait, Sartre, écrivant absolument magnifiquement, je ne peux pas m'empêcher de vous le lire. En plus, c'est très drôle, c'est délicieusement drôle, selon mes propres critères. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même jouent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses, il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte, il joue à être garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre. Le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas de celle qui s'impose à tous les commerçants. Leur condition est toute de cérémonie. Le public réclame d'eux qu'ils la réalisent comme une cérémonie. Il y a la danse de l'épicier, du tailleur, du commissaire-priseur. Par quoi ils s'efforcent de persuader à leur clientèle qu'ils ne sont rien d'autre qu'un épicier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. Un épicier qui rêve est offensant pour l'acheteur, parce qu'il n'est plus tout à fait un épicier. La politesse exige qu'il se contienne dans sa fonction d'épicier, comme le soldat au garde-à-vous se fait chose soldat avec un regard direct, mais qui ne voit point, qui n'est plus fait pour voir, puisque c'est le règlement et non l'intérêt du moment qui détermine le point qu'il doit fixer. Voilà. Donc, la relation au garçon de café semble, du même coup, difficile, menacée en tout cas d'inauthenticité, parce que le garçon de café, nous dit Sartre, est dans un rôle. Et on s'en aperçoit d'autant mieux, ça se dit, oui. Enfin, ça apparaît d'autant plus, en tout cas, lorsque le garçon de café ne joue pas son rôle. Alors, ça m'est arrivé une fois, je ne dirai pas où, parce que je ne suis pas là pour faire. Mais bon, je me baladais place Carnot, j'ai vu un café. Je ne dis pas lequel. Et en s'asseyant avec ma femme, mes enfants... Ah, ma femme revient. Exemple récurrent. À la terrasse, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, c'est, en fait, c'était pas nous. J'ai dit à mes élèves et j'ai menti que c'était à nous que c'était arrivé, mais c'est arrivé à la table d'à côté. Bon. Eh bien, les gens, c'était en été, gênés par le soleil, se sont déplacés après avoir commandé. Qu'a fait le garçon de café? Il est arrivé furieux, puisqu'il est très énervé, ce garçon. Et il a placé les bouteilles, les verres, sur la table où ils étaient avant. Les clients ont regardé médusés en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Où on est là ?» Il a dit « Non, mais mon rôle n'est pas, mon rôle n'est pas de regarder où les clients sont et disparaissent. » Enfin, quelque chose comme ça. Je crois que c'était moins poétique. Voilà. Donc là, boum, gifle. Le garçon de café ne joue pas au garçon de café. Et là, ça vous apparaît, bon. Alors en même temps, ça pourrait être justement une réaction humaine. On s'attend à une réaction mécanique et puis là, on a une réaction humaine. Mais c'est d'une violence folle. Bon. Alors justement, cette indifférence a un rôle à jouer, elle nous protège en général des intrusions. C'est-à-dire, mais on y reviendra, que si on n'avait que des relations authentiques avec autrui, y compris avec son boulanger, y compris avec son pâtissier, son boucher, n'importe qui, ou même avec sa famille d'ailleurs, ce serait extrêmement pesant. Si à chaque fois il fallait s'enquérir vraiment de la santé des gens, ce serait insupportable. Bon, voilà. Quand votre boulanger vous dit « ça va », vous dites « oui », bon, dites « non ». Mais vous ne le racontez pas votre vie, en général. Sauf si vous le connaissez très bien. Bon. Il n'y a rien de pire que les gens qui racontent leur vie quand on leur demande si ça va, par politesse. C'est terrible. Et pourtant, ça ne devrait pas, mais c'est terrible. « Bonjour, ça va ?»« Non, en ce moment, ça ne va pas, ma femme, tu sais, blablabla. » Non, non, je ne veux pas savoir, en fait. C'était simplement par convenance. Voilà, en gros, un premier obstacle. Bien. Alors, on a parlé comme ça de l'autre dans une dimension très générale, mais ça peut être aussi au sein d'une famille. Même au sein de notre famille, les relations sont souvent plus opaques qu'on ne le croit en général, puisqu'on cache évidemment son individualité profonde derrière un rôle. Donc il y a le rôle de la petite fille obéissante, du papa rigolo ou autoritaire, de l'adolescent révolté. Bien. Donc même là, il y a une part d'inauthenticité. Et puis enfin, et c'est ce qu'on va voir maintenant, aux codifications familiales s'ajoutent aussi les structurations mentales infantiles, c'est-à-dire la façon dont on s'est, par exemple, structuré, qui empêche parfois de voir les autres tout à fait objectivement, si tant est que ce soit possible. Bon. Alors justement, passons au petit b, toujours du grand 1, hein, le deuxième point, après les obstacles sociologiques, il y a évidemment les filtres psychologiques. Alors, on ne va pas revenir là-dessus trop longtemps, mais on a vu avec la psychanalyse combien les individus sont englués dans des habitudes et dans des structures psychiques qui sont nées de la petite enfance. Si bien qu'en général, alors on pourrait simplifier en disant qu'on ne voit dans l'autre que ce qu'on veut bien voir et non pas ce qu'il est vraiment. Il y a un ensemble de projections mentales et affectives, mutuelles, hein, pas seulement de notre part, mais de la part des autres, qui fait que bien souvent, on ne se comprend pas. Alors évidemment, vous allez me dire, mais non. Enfin, monsieur Garrigue, ça c'est moi. C'est pas possible. Ça ne marche pas, votre truc, avec l'amour. L'amour, c'est ce qui vient complètement faire voler en éclats cette superficialité des relations. Bon, en tout cas, c'est pas ce que dit Pascal. Blaise Pascal, dans Les Pensées, qui essaye de nous montrer justement à quel point l'amour ne fait pas exception. Et on va le comprendre assez bien avec ce tout petit texte. Donc, qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on ? Moi ? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Alors, je reprends, mais ce n'est pas toujours facile en langage 17e, mais que nous dit ici Pascal ? C'est très simple. On a une alternative. Ou bien vous aimez quelqu'un pour des qualité, ou bien vous aimez quelqu'un pour sa substance même, profonde. Si vous l'aimez pour des qualités, en fait, vous ne l'aimez pas vraiment. Pourquoi ? Parce que vous aimez des qualités qui peuvent toujours disparaître. Je t'aime parce que t'es gentil. Oui, mais si vous êtes méchant, un jour, boum, ça disparaît. Je t'aime parce que t'es belle, parce que t'es beau. Oui, mais enfin, avec l'âge, parfois ça s'améliore, parfois pas. Je t'aime parce que tu me rappelles ma mère. Bon, je sais pas si c'est une très bonne raison. Bien, bref, on aime pour des qualités qui peuvent disparaître, qui peuvent être autres qu'elles ne sont, etc. Mais enfin, ces qualités sont transitoires. Donc, si vous aimez vraiment l'autre, non. Mais si vous l'aimez pas pour ses qualités, vous l'aimez indépendamment de ses qualités. Vous l'aimez comme ça, abstraitement. Il est pas content, l'autre non plus. Si ma femme, ah, encore elle, disait, mais pourquoi tu m'aimes? Vous savez, comme dans le mépris. Est-ce que tu aimes mes fesses? Est-ce que tu aimes, bon, voilà, pas, j'aurais pas dû commencer par les fesses. Bien, dans le mépris, oui, si je dis non, je t'aime pour rien du tout de tout ça, pas du tout, je ne vois même pas ça, je ne vois aucune qualité, je t'aime parce que, voilà, comme un substrat indifférent, indifférencié. Je t'aime parce que c'est toi, quelles que soient tes qualités. Non, ma femme, elle veut que je l'aime pour ses qualités. Donc soit on aime quelqu'un pour ses qualités, mais on ne l'aime pas vraiment parce qu'elles peuvent disparaître, soit on aime quelqu'un pour ce qu'il est comme ça intrinsèquement hors ses qualités, puis on ne l'aime pas vraiment parce qu'on aime le genre humain, quoi. Nous voilà bien. À la fin, on va en sortir, hein, parce qu'à chaque fois, on rentre dans des affres pas possibles, on se dit, mais quelle est la solution? Mais le jeu, c'est que la solution vienne en trois, si elle y en a un. Voilà. Non, parce que c'est toujours très pessimiste, évidemment, au début. En même temps, c'est pas complètement faux. Notez. Enfin, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça sera au moment des questions. Pour l'instant, prenons ce présupposé. Il n'y a pas un véritable amour. Bon. Alors, pour Pascal, s'il y a une solution, je ne sais pas si ça va beaucoup vous rassurer, c'est du coup, devant la futilité des relations humaines, autant se tourner vers Dieu. Donc, le vrai amour, c'est Dieu. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas très rassurant pour ma femme. Bien. Alors, sauf que Stendhal va enfoncer un peu le clou dans de l'amour en prenant l'exemple de la cristallisation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il dit, finalement, l'amour, c'est un peu comme si vous plongiez un bâton dans de l'eau saline. Voilà. Au bout d'un moment, vous le retirez, et puis on se rend compte que le bâton est tout chargé de cristaux. Alors, je connais rien en chimie, je ne savais pas que ça faisait ça. Enfin, il nous le dit, je le crois. Et c'est magnifique. Après, le bâton, il sort, il y a plein de cristaux comme ça, qui sont des dépôts de sel, qui se sont cristallisés. Il est superbe. Voilà, en gros, la façon dont, en général, se font les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'on projette sur l'autre tout un tas de qualités qu'on veut y voir. C'est pas des qualités qui y sont intrinsèquement. C'est des qualités qu'on a besoin de voir en l'autre et qu'on projette. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Et c'est pas mal, parce que ça nous rappelle un peu la psychanalyse. C'est-à-dire, j'aime quelqu'un pour ce que j'ai envie d'y voir. C'est pour ça que parfois l'amour rend aveugle, oui, ça rend aveugle, parce que c'est pas que ça rend aveugle, c'est que ces qualités-là, elles y sont, elles n'y sont pas à la fois, si vous voulez. Elles y sont parce qu'en général, c'est difficile. Bon, j'ai dit que je parlais plus de moi, j'avais fait le serment en conférence, mais bon, voilà. Bon, je sais pas, vous aimez, je sais pas, vous tombez amoureux de Woody Allen, vous l'aimez pas en général pour sa musculature, ou alors vraiment l'amour vous rend complètement débile. Bon. Vous l'aimez pour d'autres qualités. Donc en général, il y a à la fois quand même un substrat un peu réel, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses que vous projetez. C'est pour ça que les gens parfois ne vous comprennent pas. Bref, voilà en gros les filtres psychologiques, hein. Sociologiques, psychologiques, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il nous en reste encore un champ et le pire. C'est l'inaccessibilité fondamentale d'autrui. Donc, troisième grand problème dans la rencontre authentique avec autrui, c'est le fait que l'autre m'échappe simplement, constamment. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'autre ne m'est pas accessible directement, puisqu'il ne se manifeste à moi que par son comportement, par ses actions, ses attitudes, etc. Il est une sorte de spectacle extérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il nous ment, hein. Ça c'est encore un cas limite, évidemment qu'il nous ment parfois, autrui nous aussi, on lui ment, bon. Mais je dis juste que le fait même qu'il se manifeste à moi nécessite déjà un décodage et une impossibilité d'accéder à ce qu'il est intérieurement. C'est ça qui va nous poser problème. Il y a un isolement fondamental des consciences. Alors, je voulais pas vous prendre non plus à témoin, parce que là, pour moi, les autres, c'est vous, c'est triste. Mais voilà, chacun de vous est complètement isolé les uns des autres. Vous êtes en train... Alors peut-être certains viennent pour la première fois et se disent, tiens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais regarder la réaction des autres. Ça, c'est la réaction des élèves en général. Au début de l'année, je fais des blagues. Il y a toujours des élèves qui rigolent, puis des élèves qui sont dans le doute. Est-ce que c'est vraiment drôle ou est-ce qu'il a l'air d'un nul? Bon. Alors ils observent, bon, ils regardent. Ah tiens, il y en a qui se marrent, bon, je vais me marrer. Bon, voilà. Ou au contraire, allez, je vais faire partie du clan qui dit, ces blagues-là sont nulles. ou ceux qui n'ont même pas compris qu'il y avait une blague parce qu'ils dormaient, bon, ça c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, voilà, on ne peut comprendre autrui qu'à partir de ce qu'il manifeste. Et il en va de même, et c'est ça le problème, de ce qu'il ressent. C'est-à-dire que comment est-ce que je sais ce qu'il ressent ? Eh bien, toujours à partir de ce que j'ai moi-même pu ressentir. Quand je vois mon bébé pleurer, je repense aux fois où j'étais triste et je dis « Oh là là, le pauvre, c'est tellement mignon, c'est tellement triste. » Moi, à son âge aussi, j'avais peur du noir. Voilà. Bon. Donc, c'est toujours là encore la projection qui nous embête. Hein. Le langage, justement, nous induit en erreur. On dit qu'on est empathique. Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'empathie, c'est quoi ? C'est d'abord le fait que dans autrui, je reconnais ma propre souffrance. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi une incommunicabilité totale entre la mère et l'adolescente, ou l'adolescent. Je ne vais pas faire de misogynie, pardon, mais je pensais à ma fille. Ou le père, voilà, le père et l'adolescente. C'est très bien. Parce que quand ma fille est triste, je lui dis « Mais j'ai déjà vécu ça à ton âge. » Mais non, pas du tout. Elle vit quelque chose de totalement nouveau, totalement neuf. Moi, j'ai l'impression de reconnaître des grands standards, les boulevards de l'adolescence. Mais son vécu à elle n'est pas du tout le mien. Et si je crois à l'y reconnaître, c'est pour ça que ça l'agace, et elle a raison. Mais oui, on est tous passés par là, c'est bon, allez, passe à autre chose. Pas du tout. Personne n'est passé par là. Elle vit quelque chose d'unique. Et moi, je crois reconnaître quelque chose qui évoquait vaguement une souffrance, et j'ai surtout envie de me débarrasser du problème. Pas de ma fille, de son problème. Hein. On est d'accord. Bien. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'il y a une incommunicabilité totale entre ma souffrance et celle d'autrui. C'est-à-dire, je crois pouvoir imaginer ce que l'autre comprend, ressent, mais en fait, je ne ressens pas ce qu'il ressent. Je ne peux inférer ce que ressent autrui ou le comprendre qu'à partir de ma compréhension de mes propres émotions, sensations, etc. Ce qui nous produit une forme de solipsisme. Solipsisme, c'est l'idée, le doute, et si finalement j'étais tout seul avec ma conscience ? Et si je ne sortais pas de ma conscience ? Et si j'étais dans l'incapacité ? Alors là, on l'entend au sens faible, hein, le solipsisme au sens strict, c'est l'idée qu'en fait, mais ça, tout le monde a eu un peu ce soupçon au moins une fois dans sa vie, et si le monde n'existait pas en dehors de ma conscience ? Ça, c'est au sens strict. Et si en fait, tout ce que j'étais en train d'imaginer, je suis en train de créer au fur et à mesure que je l'imagine, par exemple. Bon, à titre de jeu de l'esprit, hein, je dis pas que si vous en êtes persuadé... il serait peut-être temps de considérer une autre hypothèse. Bon. Bien. En tout cas, d'un point de vue faible, hein, le solipsisme, ce serait l'idée qu'il y a une incommunicabilité entre mon monde, le monde de mon esprit, et celui des autres. Bien. Alors, un exemple donné... par Proust. Alors, pour l'instant, évidemment, je rentre aussi, moi aussi, dans des boulevards, puisque... C'est souvent quand même des exemples un peu récurrents. Après, on va essayer de travailler des choses un peu plus originales, mais je trouve que cet exemple est plutôt réussi. Proust, c'est dans quoi ? Je crois que c'est dans La Prisonnière, justement. Je ne suis pas sûr. Donc, dans La Recherche du Temps Perdu, ça, c'était facile. Mais Proust met en scène le caractère inaccessible de l'autre à travers les paroles du narrateur, hein, vous savez, l'amoureux torturé d'Albertine. Alors, il dit d'abord... Nous croyons savoir exactement les choses et ce que pensent les gens, pour la simple raison que nous ne nous en soucions pas. Mais dès que nous avons le désir de savoir, comme Al-Jaloux, c'est un vertigineux kaléidoscope où nous ne distinguons plus rien. Donc ce que montre déjà Proust ici, c'est le hiatus, le saut, entre la vie ordinaire, où nous ignorons même qu'on est profondément seul, et ce réveil... que peut provoquer justement un intérêt authentique pour autrui. Sauf que voilà, quand on a cet éveil et qu'on cherche véritablement à savoir ce que veut nous dire l'autre, qui est l'autre, eh bien on est face à un mur, puisque nous sommes devant une véritable énigme. Alors encore une fois, les relations sociales, voilà. Hein, les relations sociales inauthentiques, ça nous va très bien, ça nous protège de l'intrusion. C'est ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire le « ça va » n'appelle pas une véritable réponse développée. Extrêmement profonde, à part si vraiment vous appelez quelqu'un pour savoir s'il va bien. Bon. Bon, enfin, en général, salut, ça va, bon, c'est vraiment des choses très... Voilà. D'ailleurs, parfois, on répond même pas. Ça va, on répond par ça va, on montre vraiment l'inauthenticité, et sans compter, mais là, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération que l'origine de l'expression « ça va » en fait ramène à quelque chose de bien plus intime qu'on ne le croit. Bon, bon, pour ceux qui ne savent pas, a priori, « ça va » était ce qu'on demandait au roi pour savoir si son transit se passait correctement. Donc quand vous dites juste « ça va », ça veut dire « tout va bien de ce côté-là ». Et en fait, en disant quelque chose en apparence extrêmement quelconque, on est dans l'intrusion la plus totale, quoi. Bon. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Comment allez-vous ? C'est pareil. Bon, bref. Je n'ai pas répondu à cette question. Mais en revanche, quand on essaye véritablement de rencontrer l'autre, on est devant une énigme, et c'est justement ce que va ressentir le narrateur de la recherche. Devant la jalousie qu'il ressent pour Albertine, il essaye de véritablement savoir ce qui se passe. Alors, il la caresse, il a Albertine, la tête d'Albertine sur ses genoux, et voilà ce que nous dit Proust. Je pouvais prendre Albertine sur mes genoux, tenir sa tête entre mes mains, je pouvais la caresser, passer longuement ma main sur elle, comme si j'eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou le rayon d'une étoile. Je sentais que je touchais seulement l'enveloppe close d'un être qui, par l'intérieur, accédait à l'infini. C'est beau à se damner. Bon, pardon. Là encore, voilà, il y a Albertine, il y a Proust, il essaye désespérément de savoir ce qu'il y a dans cette tête, mais tout ce qu'il peut faire, c'est caresser cette enveloppe corporelle. Certes, belle, mais bon, il ne sait pas du tout si elle lui ment, il ne sait pas qui elle est, et on a beau la caresser, ça ne nous révèle pas grand-chose d'autre. Voilà, donc on a bien vu, la relation à autrui est problématique, et pourtant, elle n'en demeure pas moins nécessaire à la constitution du psychisme et à son évolution. Voilà, alors, on pourrait déjà passer à la nécessité d'autrui, puisque c'était quand même vraiment ce que je voulais aborder maintenant, mais il m'est revenu quelque chose d'assez essentiel qui permettra de faire une transition. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Alors, c'est une question que, voilà, je voulais absolument vous en parler, parce que je trouve que c'est un texte merveilleux. Peut-être un des plus beaux que j'ai jamais lu, et un des exemples les plus formidables, mais je ne sais pas très bien comment l'introduire. C'est le problème de la solitude de l'existence. Et ça nous servira un peu de transition et aussi d'un exemple récurrent. C'est-à-dire que Alain Finkielkraut, indépendamment de ce que vous pensez du bonhomme en tant que bonhomme, écrit superbement, et il a écrit notamment ce magnifique livre, La sagesse de l'amour, qui notamment permet de comprendre Lévinas sans se heurter au caractère extrêmement technique que peut revêtir cet auteur. Voilà, donc c'est à la fois un commentaire sur Lévinas, et à mon avis c'est même encore plus que ça. Et surtout, il y a cette anecdote exceptionnelle qui nous montre un petit peu la nécessité d'autrui. En tout cas, le poids de l'existence, voilà, je vais arrêter mes préambules et vous lire simplement le passage. Qu'est-ce que l'existence ? À cette majestueuse question, Lévinas répond par le récit d'un drame minuscule, celui-là même dont le pauvre Oblomov est accablé. Oblomov, célèbre personnage de la littérature russe, souffre d'un mal commun, la paresse, qu'il radicalise jusqu'à une répulsion globale envers toute forme d'événement. Il aspire au calme plat et ne peut jamais complètement réaliser son idéal. Propriétaire, il vit du revenu de ses terres, mais cette oisiveté est encore trop accaparante. Il lui faut veiller à la gestion, de son domaine, rendre des visites, vivre en un mot, et sa monumentale paresse s'insurge contre toutes ses concessions. Il se cloître donc, fuit l'animation dans l'apathie, refuse même de laisser entrer la lumière du jour dans les quatre murs de sa chambre, sans succès. Il y a toujours trop d'êtres dans l'air pour Oblomov, trop de tumulte et de remue-ménage dans son inaction. Quand bien même il n'ouvrirait plus son courrier, confierait à d'autres le soin d'administrer ses propriétés, chasserait les derniers opportuns, passerait sa vie couchée, bref, déciderait une fois pour toutes de rompre tout lien avec le monde extérieur pour se laisser aller à une indolence absolue, à une torpeur sans entrave, il resterait à Oblomov cette œuvre, ce poids, cette charge, cette entreprise impossible à déserter, l'existence. On peut faire la grève de tout, sauf d'être. Oblomov n'écarte les obstacles à son repos que pour se heurter à cet écueil insurmontable, sa paresse est un soupir inutile. Exister, dit Lévinas, dans ses conférences du Collège philosophique, est une pesanteur et non une grâce. C'est un enchaînement de soi à soi. le fait pour le moi d'être sans cesse encombré de lui-même, embourbé dans lui-même, l'existence s'impose avec tout le poids d'un contrat irrésiliable. On n'est pas, on sait. Phrase qui fait écho à cette formule de Sartre dans L'âge de raison. Exister, c'est ça, se boire sans soif. Qu'est-ce que c'est beau, Sartre encore. Exister, c'est ça, se boire sans soif. Alors là, ça paraît affreux, évidemment, abominable, l'existence, c'est affreux. Non, l'être est affreux. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses, qu'il y ait... Voilà, je suis obligé d'être moi-même tout le temps. Je ne peux pas échapper à moi-même. Voilà ce que dit ici Lévinas. Et donc, Finkielkraut parlant de Lévinas. Je ne peux pas m'échapper à moi-même. Donc, la servitude originelle, ce n'est pas l'autre, c'est l'être. Le premier maître est le soi-même. L'enfer, en gros, c'est d'être tout le temps seul avec soi-même. C'est l'existence nue. Ce qu'on va essayer de voir, justement, c'est comment remplir cette existence, eh ben, par la médiation de l'autre. En tout cas, pour l'instant, on va essayer d'évoquer ce problème avec notre deuxième partie, la rencontre avec autrui comme nécessité. Donc on va essayer d'échapper au poids de l'existence, d'une existence qui se suffit à elle-même. Alors on comprendra un peu mieux ce que veut dire ici Lévinas à la fin. Encore une fois, parfois, le début s'éclaire par la fin, c'est-à-dire cette opposition entre l'être et ce qu'on verra être une transcendance d'autrui, eh bien, il faudra passer par des étapes préalables pour véritablement le comprendre. Alors, la rencontre avec autrui apparaît effectivement non pas seulement comme un poids, heureusement, mais aussi comme une nécessité. Alors on le voit déjà très vite, hein, au niveau psychologique, il y a une dépendance de la nature humaine à l'égard de la relation sociale. Alors on pourrait prendre l'exemple des enfants sauvages, hein, le petit homme qui, en raison de circonstances malheureuses, se trouve isolé de ses semblables, n'a pas un développement normal. Alors, on se souvient du cas emblématique, hein, analysé, Victor de l'Aveyron. Donc il lui manque l'aptitude au langage qu'il ne développera jamais. Il saura dire un seul mot dans toute sa vie, lait, pas au sens de beau ou lait, de le lait, converse. Et encore, il le hurle, lait, tenant. Alors, il est capable d'avoir des relations extrêmement faibles, bon, il est recueilli, hein, donc on essaie de lui apprendre, mais très, très tardivement, donc c'est un enfant qui n'a pas eu de relations avec les autres, et qui du coup ne les développera jamais normalement. Donc, évidemment, l'homme peut aller beaucoup plus loin que l'animal en général, encore que cela peut être mis en question, je sais bien, c'est pas le propos. Mais, en revanche, sans le rapport aux autres, on le sait, l'homme se développe infiniment moins. Il manque des instincts. Il en a moins, en tout cas moins efficace. Bien, en tout cas, il faut un certain nombre de stimuli pour permettre une constitution de base aux hommes qui permettent, justement, cette humanisation, cette humanité. On le voit aussi au niveau des relations psychologiques. Winnicott, qui n'a pas seulement un nom rigolo, montre que la relation d'objet, donc la relation à l'autre, ce qu'il appelle la relation d'objet, est essentielle à la santé psychique de l'individu. Alors, je ne vais pas spécialement évoquer les psychoses, parce que ça c'est sujet à caution. Est-ce que véritablement le rôle des parents est un rôle décisif dans... par exemple, l'autisme ou d'autres formes d'altération du rapport à l'autre. Ce n'est pas le propos spécialement, mais enfin, on sait à quel point le contact avec l'enfant, le regard de l'enfant, le fait de s'intéresser à l'enfant au moment où il tète, etc., ou au moment où il donne le biberon, c'est pareil. En tout cas, c'est parce que... Bref. Est important, et même absolument déterminant. Et on pourrait même étendre encore le raisonnement en disant que la relation des parents à l'enfant doit se faire dans des conditions de tendresse favorables à l'attachement, mais avec une distance suffisante. Hein, trop d'attachement, c'est la fusion. Trop de distance, c'est l'angoisse. Bien. Donc, il faut qu'à la fois l'enfant soit respecté dans son altérité, qu'on le reconnaisse comme un individu à part entière, mais aussi qu'il ne soit pas simplement l'autre, mais qu'il fasse vraiment partie d'un cocon familial, etc. Alors, Freud l'a montré dans la deuxième topique, hein, qu'il a développée. Le psychisme humain se construit notamment à partir de deux réalités essentielles, alors, ce qu'on appellera les identifications primaires parentales et l'intériorisation des règles et des interdits. Alors, l'identification, c'est le fait de reconnaître un rôle symbolique dans ses parents. Et les interdits et les règles, c'est ce qui va permettre de construire, hein, dans le verbiage freudien, un ça et un sur moi. Enfin, en tout cas, il faut des limites pour que l'enfant puisse se constituer normalement, mais il faut aussi une libre expression des désirs. Si l'enfant ne peut jamais réaliser ses désirs, avec des parents beaucoup trop autoritaires, qui contiennent absolument toute forme de désir, eh bien, l'enfant est complètement replié sur lui. Il n'ose plus exprimer une émotion, il se l'interdit même à lui-même. Si à l'inverse, on lui laisse, et vous le savez, on laisse libre cours à ses désirs, c'est l'horreur, l'enfant devient l'esclave de lui-même et de ses propres désirs, de ses propres passions. Il se roule par terre dans les supermarchés, etc. Je repense à cette pub que beaucoup de gens ont vue, curieusement, alors qu'elle n'a jamais été vraiment diffusée, je crois, en France. Mais on voyait un enfant qui hurle par terre, qui fait un caprice mais énorme pour avoir quelque chose. Et en fait, tout le monde a honte. Les gens se cachent, parce qu'on voit l'enfant qui hurle, et les parents qui ne font rien. Tout le monde est démuni, personne ne sait quoi faire. Et les parents n'interviennent absolument pas. Et c'était une pub pour les préservatifs. C'est affreux. Ça veut dire, en gros, si c'est comme ça que vous éduquez vos enfants, n'en faites pas. Bon, mais outre cette espèce de... Après, on prête complètement... Voilà, l'enfant tyran, c'est pas seulement qu'il ait une souffrance pour les autres, c'est aussi, bien sûr, et surtout, qu'il ait une souffrance pour lui-même, puisqu'il n'est pas capable de se contenir, et ne pas dire non à l'enfant, c'est ne pas faire place au principe de réalité et l'empêcher de se réaliser normalement. Bref, autrui déjà indispensable dans mon développement psychique. Autrui indispensable pour réaliser mon humanité. Mais on va voir que ça va même encore plus loin, puisqu'il va falloir, à un niveau, on va dire plus loin, à un niveau plus philosophique, il va falloir considérer que l'autre, qu'autrui, va permettre même de me réaliser, comment dire, pas seulement généalogiquement, de l'enfance vers l'adulte, mais même à une conscience déjà adulte, de se réaliser progressivement, à un niveau plus existentiel. Bref, vous ne voyez pas ce que je veux dire parce que je ne l'ai pas encore développé, mais commençons. Et c'est surtout ça l'essentiel de ce moment-là, c'est ce que Sartre, encore lui, montre dans L'être et le néant. Sartre va essayer de montrer que le rapport à autrui est toujours dans une certaine forme d'ambivalence nécessaire. On va essayer de le comprendre et de... Alors, c'est un peu technique, hein, malgré tout, Sartre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais il va notamment montrer dans L'être et le néant que l'essence de la conscience, c'est la liberté. L'homme est, par définition, libre. Alors, vous allez dire, mais non, machin, mais si, il l'est. Et c'est tout. Et vous le savez. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas un objet. Vous savez que vous n'êtes pas ici... Vous n'êtes pas comme une chaise, vous n'êtes pas entièrement le produit de déterminisme. Vous savez que vous êtes libre, c'est tout. Vous faites l'épreuve de votre liberté. Il n'y a pas à le prouver, puisque vous le savez profondément. Seulement, justement, c'est bien là le problème. Contrairement à la bouteille qui est, juste qui est, elle n'existe pas, elle est. Alors, oui, pardon, c'est le vocabulaire de Sartre, vous pouvez aussi être surpris par ce que je dis. C'est pas au sens qu'elle n'existe pas, pouf, elle disparaît, mais exister, pour Sartre, c'est se définir progressivement. Une bouteille, c'est juste qu'elle est là, elle est pleine d'elle-même, nous dit Sartre, et elle n'a aucun rapport à l'extérieur. Elle est, c'est tout. C'est le monde des choses. L'homme, c'est tout à fait le contraire. L'homme est perpétuellement en rapport à autre chose que lui. Ça, c'est la conscience. Et ça implique que l'homme peut se définir lui-même. La bouteille, on l'a définie une fois pour toutes. Mais l'homme, en revanche, qu'est-ce que c'est que sa définition ? Eh bien, c'est ce qu'il fera de sa vie. Vous êtes exactement ce que vous avez fait toute votre vie. Voilà ce que nous dit Sartre. Votre définition, elle viendra, si tant est qu'on puisse un jour vous définir, à votre mort. Quand vous ne pourrez plus rien être de nouveau, là, on pourra dire, voilà ce qu'il a fait. Il a été professeur de philosophie, papa... je ne sais pas, puis glacier, ou ce que vous voulez. Bon. Mais quoi qu'il en soit, votre définition, vous la faites au fur et à mesure. Voilà en gros ce que nous dit Sartre. Et c'est ça qui fait que vous êtes une liberté. La bouteille n'est pas libre parce qu'elle est juste là. L'homme est libre parce qu'il se définit en permanence. Ça va pour l'instant ? Bon, parce que ça c'est important, c'est juste le premier jalon. Mais si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris parce que vous avez compris pourquoi l'existence, pour Sartre, est une angoisse. C'est angoissant parce qu'il va toujours falloir se définir, en permanence. C'est ça l'angoisse. C'est-à-dire que c'est à la fois chouette, hein, quand même, d'être libre. Mais en même temps, c'est un vrai fardeau. Parce que, en permanence, je dois me choisir, me définir, et je pourrais être, nous dit Sartre, à peu près n'importe quoi. Alors, il y a des choses qui pourraient effectivement échouer. Si demain, je veux devenir président de la République, possible que ce soit un peu plus compliqué que ça. Mais c'est pas impossible. Bon. Non, j'allais dire une bêtise pour rire, mais non. Surtout pas. J'aurais dit la même bêtise avec le prédécesseur de... Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, il y a une angoisse, c'est l'idée que je m'échappe en permanence à moi-même. C'est-à-dire, je voudrais me définir une fois pour toutes, mais je suis toujours en cours de définition. Hein, c'est la fameuse célèbre, la fameuse célèbre phrase, c'est pas terrible, de Sartre. Donc, vous savez, l'existence précède l'essence. Pour l'homme, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, l'essence est la définition, l'homme se définit. Bon, pour la chose... C'est l'essence qui précède l'existence, c'est quand vous savez ce qu'est une bouteille que vous pouvez créer une bouteille. Pour l'homme, vous ne saurez ce qu'il est, chaque homme, qu'à partir de ce qu'il sait fait, nous a dit Sartre. Bon, bref, c'est angoissant, croyez-moi. C'est angoissant parce que, en permanence, on doit se définir, et dans les faits, on ne peut pas se définir de façon unilatérale. On est multiple, on est plein de choses à la fois. Et c'est ça aussi qui fait l'ambivalence du sentiment. Parce que si je dis à quelqu'un que je l'aime, quoi que je dise, c'est toujours vrai et faux à la fois. Oui, je l'aime. Mais par exemple, si vous aimez quelqu'un, est-ce que vous l'aimez à chaque instant, même quand il vous énerve? Oui, au fond, du fond, vous l'aimez. Mais sur le moment, ça ne vous apparaît pas. Des moments où vous êtes franchement énervé. Et puis, voilà, vous décidez d'être honnête. Mais sommes-nous vraiment honnêtes? On ne l'est jamais complètement. On est à la fois honnête et en même temps, toujours une partie de nous qui essaye d'être honnête, ce qui prouve qu'on ne l'est pas tant que ça. Bien. Bon, donc, quoi qu'il se passe, je fais toujours un peu semblant d'oublier ce que je suis, que je ne suis pas seulement cela ou cela. Par exemple, là, je joue le conférencier, hein, je ne parle pas comme ça à ma femme. Je ne prends pas ces grandes exclamations, quoique parfois si, et ça l'énerve. Mais bon, là, je fais semblant d'oublier que je ne suis pas que conférencier, et je suis tout à ce que je fais. Bien. Donc, il y a toujours cette incertitude. Hein, on pourrait reprendre l'exemple du garçon de café qui joue à être garçon de café et qui oublie qu'en fait, il n'est pas, au fond de lui, profondément, juste un garçon de café. Il joue. Bon. Alors, c'est par rapport à tout cela que autrui m'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que le regard de l'autre va me servir de miroir et va stabiliser mon angoisse. Et oui. C'est-à-dire que je peux me définir n'importe comment. Oui, mais l'autre, il ne va pas me définir n'importe comment. Déjà parce qu'il va voir certaines choses en moi. Alors ça va m'énerver, mais ça va aussi simultanément me rassurer. J'ai besoin de ce rapport pour calmer mon angoisse. Là aujourd'hui je suis conférencier parce que j'ai un public. Vous ne seriez pas venu, ça c'est l'angoisse avant la conférence. Et s'il n'y avait personne, à part les bons potes que j'ai invités, ou les anciens élèves que j'ai forcés à venir. Eh bien, ça c'est l'angoisse, mais une fois que vous êtes là, ouf, ben, je suis conférencier. Voilà en tout cas ce que je me dis. Donc ça apaise l'angoisse. Le regard d'autrui vient me définir, contribue à me définir, à chaque instant. Et ça vaut pour tout. Je suis un père sous le regard de mes enfants, tant qu'ils me reconnaissent cette autorité de père. Je suis, etc., etc. Donc j'ai besoin de calmer ce champ des possibles infinis qu'est ma liberté par l'intermédiaire d'autrui qui m'apaise en me définissant. Mais l'horreur, c'est que je ne supporte pas d'être défini non plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez toujours donner une image de vous à certains, et ça va parfois marcher. Sauf que vous voudriez qu'on vous voie aussi comme tout à fait autre chose. Par exemple, un jour, vous faites rire tout le monde dans une soirée. Vous dites, super, les gens voient au moins un rigolo. Ah oui, mais vous en voulez simultanément parce que vous savez aussi être profond. Alors, vous n'avez pas envie qu'on vous voie comme un petit rigolo. Vous voulez aussi apparaître comme quelqu'un de profond. Mais vous ne pouvez pas l'être en même temps. Enfin, vous pouvez l'être en même temps, mais vous ne pouvez pas être, par exemple, cette profondeur ténébreuse à la Finkielkraut, ou cet humour un peu rigolo à la Fabrice Luchini. Pas à la fois. Luchini n'a rien d'un ténébreux. Bon. Et Finkielkraut n'a rien de rigolo, si je peux me permettre. Mais il peut être drôle. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que je ne veux pas non plus qu'on me détermine absolument. Je veux à la fois être une multiplicité et en même temps, ça m'apaise quand on me définit. Ça va ou pas ? Bon, d'accord. parce que c'est pas forcément facile. Bon, donc je veux à la fois me reconnaître dans le regard d'autrui, et en même temps je supporte pas trop, parce qu'une fois qu'il m'a reconnu, ben j'ai peur qu'il me voit que ça en moi. Donc là, on a une véritable tension. Alors déjà, cette multiplicité des apparences, certains sont peut-être sceptiques. Eh bien, je vais vous donner un exemple. L'exemple de ma femme, pour changer un peu. Ma femme au téléphone. J'en ai peut-être déjà parlé de ça. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai. Ma femme au téléphone a des tons de voix, et en fait, finalement, des personnalités très différentes. Quand elle est, par exemple, avec sa mère... Non, mais voilà, elle a ce ton un peu hésitant, gêné, doux, mais un peu sur la réserve, etc. Bon. Quand elle est avec mes enfants au téléphone, on l'entend rigolote, vivante, très drôle, etc. Quand elle est avec moi, elle est très ferme, plein d'exigences, bon, etc. Bon. J'en rajoute un peu. Mais enfin, on la sent se transformer suivant son interlocuteur. Ce qui est très intéressant, c'est toujours la même. Et en même temps, c'est plus tout à fait la même. Bon. Alors voilà, elle souffre à la fois qu'on puisse la définir de tellement de façons différentes, et en même temps, bah dans un sens, c'est la reconnaître que dire, bah voilà, tu es comme ça à tel moment déterminé. Bien. Voilà pourquoi, en gros, je ne me reconnais jamais entièrement dans le jugement d'autrui, et voilà pourquoi aussi, je ne peux pas pour autant m'en passer. J'ai besoin d'autrui pour saisir toutes les structures de mon être, pour me stabiliser, pour qu'il me reconnaisse dans mon rôle social, pour qu'il renvoie une image de ma personnalité. Par exemple, là, j'aimerais qu'on me voie encore, quand j'avais écrit ces lignes, parce que j'ai recyclé un passage seulement, je m'étais décrit moi-même comme un jeune prof de philo lyonnais. C'est rigolo parce que c'est de moins en moins vrai. Vous voyez comme on se définit au fur et à mesure. Un jour, ces lignes seront complètement fausses. Si je continue à prendre cet exemple un jour avec mes étudiants, voilà, bon là vous me voyez comme un jeune prof de philo lyonnais qui me voit sous des yeux comme ça, c'est que je ne serai plus ce jeune prof de philo lyonnais. Bon, très bien. Reconnu par le corps enseignant, etc. Bon. Bref, donc cette rencontre est rassurante. Et en même temps, elle est frustrante. Puisqu'elle contrarie l'infinité des possibles. Et je suis cette liberté. En me donnant un être concret, une définition, et bien l'autre, autrui, rate mon être essentiel qui est constitué de liberté. Or, si je désire être, et bien je ne désire pas être comme une chose. Donc il va falloir faire le deuil de l'infini. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous faites le deuil de l'infini. Vous êtes défini d'une certaine façon. Et on peut même se sentir mal à l'aise avec quelqu'un, ça peut même aller jusqu'à la rupture, parce qu'on ne supporte plus l'image qu'il a de nous. On estime qu'elle ne correspond plus. C'est terrible et on ne peut rien y faire. Vous avez un groupe d'amis, ils vous voient comme vous étiez avant, vous avez décidé de changer, vous changez d'amis. Parce que vous n'arrivez pas à faire coller deux images. Bien, donc voilà en gros, là on voit bien combien autrui m'est absolument indispensable, mais le problème c'est qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tout cela ne nous semble pas très rassurant. Donc je répète quand même, autrui est indispensable pour ma constitution psychique. Autrui est indispensable aussi pour calmer mon angoisse en me définissant. Mais simultanément, me définir, c'est aussi contrevenir à cette liberté totale que je suis. Et tout cela nous amène du coup au troisième et dernier moment, le plus fondamental. Justement, c'est l'idée que l'autre est une transcendance fondamentale. Une transcendance fondamentale, j'insiste. Voilà, c'est un peu pompeux, je suis d'accord, mais c'est difficile de le dire autrement. On va voir pourquoi. Donc, si on reprend Oblomov, qu'est-ce qu'on a ? On a cette idée que l'existence peut parfois nous peser. C'est l'être même, l'existence même qui nous pèse. Seul avec soi-même. C'est une sorte d'existence à nu. Comment cette existence peut-elle être remplie ? Eh bien justement, par la médiation de l'autre. Mais cette fois-ci d'une façon extrêmement positive. Pas simplement à titre de pis-aller, j'ai besoin d'autrui pour me construire, mais véritablement à titre de richesse. Et ça, on le voit aussi chez Sartre, décidément. Parce qu'il ne faudrait pas penser que chez Sartre, il n'y a que quelque chose de violent. Il y a aussi une grande importance accordée au regard de l'autre sur moi. La rencontre de l'autre ne commence vraiment que si je saisis sa qualité unique d'être un autre sujet conscient. Tant qu'il n'est qu'un objet pour moi, un spectacle, un masque social, eh bien je reste dans un univers solipsiste. Pour que l'autre existe pour moi en tant que sujet, il faut déjà que je croise son regard. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je ne suis plus simplement le centre d'un univers qui se structure spatialement autour de moi. Je suis d'un seul coup le centre d'un autre univers que moi. Et c'est justement cela qui va m'arracher, en quelque sorte, à cette espèce d'esseulement fondamental qu'on décrivait avec Oblomov. Le sujet qui me fait face n'est pas un simple objet de mon univers, je ne vous vois pas comme je vois cette bouteille, évidemment. Pourquoi ? Mais d'abord parce qu'il me voit. Parce que je sais que je suis un objet dans son univers. Je suis objet de conscience pour son univers. C'est pour ça que je regarde très peu vos regards. Je croise très peu vos regards, vous avez peut-être pu remarquer. C'est une timidité terrible, c'est-à-dire que je fais un peu le mariole avec mon micro. Mais à condition qu'en fait, je ne croise pas trop les regards. Toujours à tentation de lire, mais qu'est-ce qu'il pense ? Quand vous multipliez ça par un certain nombre d'individus, c'est complètement angoissé. C'est plus facile pour le... Bon, je vais un peu aller dans la facilité. Pour l'acteur de théâtre, si vous voulez. L'acteur de théâtre, il ne voit pas les spectateurs. Il peut faire le mariole, de toute façon. Il y a les lumières dans la figure. Il voit le public. En tant que public, c'est une grande surface noire. Moi, je serais à l'aise si on éteignait les lumières. Je ne vais pas vous le demander, quand même. Ça serait vraiment très intimiste, là, pour le coup. Mais, voilà... Il se passe dans un regard bien autre chose qu'une bouteille. Cette bouteille me regarde, je m'en fiche, je peux répéter dans une bouteille, mais devant vous, d'un seul coup, quelque chose de beaucoup plus profond se passe, mine de rien, même si je ne vous connais pas encore très bien. Bien. Alors, voilà, pourquoi est-ce que quelque chose de plus profond se passe ? Parce que je me saisis moi-même comme un sujet dans votre propre univers mental. Donc être regardé change totalement mon rapport au monde. Je cesse d'être une puissance pure d'organisation. Être regardé me fait chuter dans un corps que l'autre voit, et c'est moi qui deviens un élément de son univers. Alors, un exemple rigolo de Sartre, c'est toujours très, un peu tragique. Mais bon, il parle du type qui se balade dans un parc. Je me demande maintenant si c'est pas dans la nausée, ça, ou s'il le reprend pas dans la nausée. Mais bon, dans la nausée, je crois que c'est la branche. Enfin, bref, je me balade dans un parc, je suis seul au milieu de ces arbres, à la fois c'est angoissant et en même temps c'est merveilleux. C'est le matin, c'est l'ambiance romantique, il fait froid, bon, voilà, tout va très bien, je suis seul, je peux me gratter le nez, il n'y a personne, tout va bien. Bon. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? J'entends crac, une branche craquer derrière moi. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'étais observé. Et boum, le rapport change absolument. Je suis observé par quelqu'un, quelqu'un d'autre est dans le parc. Et là, ça change radicalement mon approche du parc. Je ne suis plus du tout dans la même configuration. Bon, là, ça ne semble pas encore très positif, évidemment. Tant que l'autre n'existe pas vraiment pour moi, encore une fois, tant que je n'ai affaire qu'aux expériences ordinaires, superficielles, de la vie sociale, je suis dans une sorte de tranquillité. Alors, on a des petites frustrations. La boulangère, par exemple. Ma boulangère. Parlons de ma boulangère, tiens. À chaque fois, je ne sais pas, elle a une sorte de condescendance vis-à-vis de moi qu'elle n'a pas forcément avec les autres clients. Je suis un peu paranoïaque, oui. Mais... C'est-à-dire qu'elle discute beaucoup avec les dames avant moi, et puis quand c'est avec moi, c'est bon, alors, et ce petit monsieur, qu'est-ce qu'il lui prendra ? Mais vraiment, on m'a dit une fois, ce petit monsieur. Bon, une baguette, à peine. Bon. Donc là, ça peut être un peu violent, bon, mais enfin, en général, justement, on apprécie de ne pas avoir à s'engager profondément quand on achète une baguette, si vous voulez. Pas avoir une peinture de bref caractère de soi-même. Bon. Ça n'empêche pas de souffrir, mais le fait, voilà, ces petites souffrances ne me délogent pas de mon statut égocentrique. En revanche, quand je saisis dans le monde un regard qui ne m'est pas destiné, je suis devant un... Enfin non, ça c'est pas en revanche, je suis devant un regard objet. Vous regardiez derrière moi, là je suis devant un regard objet. C'est-à-dire, je peux vous regarder, ça pose pas de problème. Mais voici que vous me regardez, boum, Vous étiez en train de regarder. C'est pour ça que je voulais mettre devant ce tableau. J'ai toujours peur que vous regardiez ce tableau. Ah non, vous le regardez évidemment. Mais c'est vrai, il est tellement comme ça, incroyable, quoi, plein de couleurs. C'est... toujours peur maintenant que tous les regards soient dirigés vers ça. Donc je proposais de mettre le bureau devant le tableau. Je pensais que ce serait pire. C'est-à-dire que les gens regarderaient, voilà, regarderaient à travers moi. Bref, quand vous me regardez, eh bien, je ne vois plus les yeux de celui qui me regarde, je vois le regard. Je vois vos yeux quand vous regardez ailleurs. Mais quand vous me regardez, boum, il se passe quelque chose d'absolument nouveau. D'accord, vous faites tous bien attention de me regarder parce que vous savez que je vous regarde. Voilà. Important. Bien. Je ne suis plus ce pur esprit inaccessible. Je suis un corps incarné. Je me sens moi-même cette conscience qui peut être affectée par un regard, par exemple, méditatif. J'en ai vu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Par un regard attentif. Bref, donc je suis affecté et je me saisis moi-même comme un corps. Voilà, d'un coup je me dis, tiens, est-ce que je suis bien coiffé ? Est-ce que... bon, là ça rebique un peu, non. Bref, par le regard de l'autre, je suis incarné, je me sens vulnérable aussi, hein, etc., etc. Donc le regard d'autrui a le pouvoir de m'incarner. Et c'est d'autant plus drôle qu'on a remarqué, je crois qu'il y avait une conférence ici même qui en parlait, le regard du nourrisson. Ce qu'il y a d'incroyable, d'extraordinaire, c'est qu'en fait, ils sont fixés, déjà c'est extraordinaire, ils sont fixés sur le regard et pas sur la bouche. Alors que techniquement, une personne leur a dit que c'était par là qu'il y avait quelque chose qui se passait vraiment. Ils pourraient regarder la bouche, c'est ce qui bouge. Ils regardent le regard. Mais on se rend compte aussi qu'ils regardent toujours, donc les yeux, donc le regard, de ceux qui les regardent. Vous avez trois personnes qui le regardent. Enfin, s'il y en a deux qui regardent à travers lui, qui regardent un peu sa bouche, ou voilà, ils ne les regardent pas. Ils regardent les gens qui le regardent. Il y a quelque chose qui se crée immédiatement, spontanément, et c'est assez incroyable. Un enfant qui vous regarde, un nourrisson qui vous regarde, qui est complètement absorbé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, il y a ce côté un peu redoutable, dont parle notamment Sartre, mais ce n'est pas seulement redoutable. C'est aussi ce qui peut m'amener au corps et au plaisir possible du corps. Alors ça, j'y viendrai après. J'arrête pas de faire boum, mais c'est désagréable, ça fait des gros boum. Je vais le mettre là. Sartre parle aussi du fait, enfin, de la puissance de ce regard qui, d'un seul coup, m'incarne. Je deviens un corps. Il en parle notamment en évoquant le voyeur. Oui, enfin... Ma femme m'avait conseillé de ne pas prendre cet exemple, mais je le prends quand même, parce que je suis un petit peu... voilà. Le geste vulgaire. Mais je ne le ferai pas, moi j'avais dit. Et puis là, je leur montrerai un geste vulgaire. Moi, je dis, non, surtout pas. Je ne montre pas. Mais Sartre évoque... voilà, vous êtes en automobile, mais ce n'est pas vous. Je sais, c'est ce qu'elle me disait, et elle a raison. En général, vous, en automobile, vous n'êtes pas forcément vulgaire. Bon. Mais il y a des gens comme ça. Et le type vulgaire qui fait un bras d'honneur à un automobiliste qui, par exemple, lui a fait une queue de poisson, ou qui fait même des gestes encore plus vulgaires, le fait tout seul dans la petite intimité de sa voiture. Et puis voilà que d'un seul coup, il se rend compte que la voiture juste à côté de lui l'a observé. Et boum. Ou alors, bon, prenons un exemple plus... ils sont pas terribles mes exemples. Vous étiez en train de vous gratter le nez, puis à ce moment-là, boum, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous fige. D'un seul coup, quelqu'un vous voit, et là, vous êtes incarné, vous êtes un corps. Là, vous vous rendez compte, c'est plus juste cet esprit comme ça papillonnant, c'est qu'on vous voit dans une position que vous n'auriez pas voulu montrer, et puis surtout, d'un seul coup, votre corps revient comme ça au galop. Alors, ça donne un exemple plus violent, c'est le voyeur. Imaginons qu'un jour, la tentation soit trop grande, et vous regardez par le trou de la serrure ce qui se passe dans la pièce à côté. Et puis d'un coup, vous vous rendez compte que quelqu'un vous observait à ce moment-là. Et bien, pouf, vous êtes figé en tant que voyeur. Et ce qui vous fait mal là-dedans, c'est quoi ? C'est qu'autrui a raison. Vous êtes aussi voyeur. C'est-à-dire que vous voulez dire à autrui, mais non, mais en fait, je ne fais jamais ça d'habitude. Là, ça tombe mal, c'est un mauvais exemple. Sauf que autrui ne vous voit que comme ça. Celui qui a regardé par le trou de la serrure. Et ce qui vous désole, c'est qu'autrui a raison. Vous regardiez par le trou de la serrure. Et ce qui ne vous faisait pas violence quand vous étiez seul dans votre petite intimité avec vous-même, d'un seul coup, devient extrêmement violent par le regard d'autrui. Mais c'est aussi le moment indispensable où vous incarnez en tant que corps. Vous existez. Et là, vous en avez vraiment le sentiment. Et justement, le fait d'exister à travers le regard de l'autre va vous transformer en corps vivant qui peut être touché et qui peut aussi faire des expériences érotiques ou des expériences, enfin érotiques au sens large, hein, des expériences, etc. La caresse. Hein. Emmanuel Lévinas parle beaucoup de la caresse. Alors, si vous voulez vous intéresser à Lévinas, je vous conseille Éthique et Infini, parce que c'est des conférences. Hein. C'est pas que je vous prends pour des idiots. Hein. Moi-même, j'ai du mal avec Lévinas. Quand on est dans Totalité Infinie, qui est son chef-d'œuvre, mais qui est extrêmement technique, là, il parle normalement, ce qui est plutôt pas mal, et c'est absolument génial. C'est vraiment un très très bon bouquin. Éthique et Infinie, donc il répond aux questions de Philippe Nemo, il évoque notamment la caresse. Il dit que dans le désir, je me fais chair en présence d'autrui, par exemple. Il dit que la caresse, etc. Alors, il y a un passage, je ne suis pas tout à fait sûr que ça corresponde complètement, parce que de mémoire, c'était pas celui que je voulais vous lire, mais j'avais noté celui-ci. Alors, il évoque la caresse, c'est un peu abstrait quand même. Ce qui est caressé n'est pas touché à proprement parler. Ce n'est pas le velouté ou la tiédeur de cette main donnée dans le contact que cherche la caresse. C'est cette recherche de la caresse qui en constitue l'essence, par le fait que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche. Ce ne pas savoir, ce désordonné fondamental, en est l'essentiel. Elle est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe. Et un jeu absolument sans projet ni plan, non pas avec ce qui peut devenir nôtre et nous, mais avec quelque chose d'autre, toujours inaccessible, toujours à venir. Et la caresse est l'attente de cet avenir pur, sans contenu. J'espère bien que ma femme ressent tout cela quand je caresse son bras, ce contact. Voilà, la caresse. D'un coup, j'existe quand je suis caressé. Ou même quand mon fils me fait un gros câlin, baveux. Je veux dire, j'existe au contact. Mais pour qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il y ait un autre. Et là, d'un seul coup, je prends corps, je m'incarne. Alors, allons un peu plus loin avec Lévinas. On va essayer de fonder ça d'une façon plus profonde. On va faire un détour par Barthes, très rapide, son fameux « Fragment d'un discours amoureux ». Que nous dit Roland Barthes dans « Fragment d'un discours amoureux » ? Eh bien, il dit quelque chose de magnifique, enfin, sur l'amour. C'est que, envers et contre tout, l'amoureux affirme sa passion. C'est-à-dire qu'il a beau énoncer toutes les raisons qu'il aurait de ne pas aimer, il a beau se dire qu'il vaudrait mieux oublier l'être aimé, une voix intérieure oppose à tout ce qui ne va pas dans l'amour, ça c'est une citation, oppose à tout ce qui ne va pas dans l'amour l'affirmation de ce qui vaut en lui. Ce qui ne vaut pas, ce sont des moments de faiblesse ou d'influence où je ne me reconnais pas comme je voudrais et où je ne suis pas comme je voudrais apparaître. Mais, et c'est tout le projet de Lévinas, il faut perdre l'initiative pour avoir la révélation de l'autre. En fait, l'autre advient, en quelque sorte. La relation devient authentique au moment où je ne me pose pas la question de l'authenticité de la relation, au moment où je m'abandonne véritablement à autrui, au moment où je n'essaye pas de cultiver en l'autre un apparaître que je voudrais lui renvoyer. Au moment où je ne me dis pas « Ah, j'ai été bien, hein. Ah, je l'ai fait rire, très bien, il m'aime. Bon. » Et Lévinas évoque tout cela à travers la question du visage. Pour Lévinas, l'accès au visage est d'emblée éthique. Alors, dans Éthique et Infini, il dit ceci. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Ça, c'est génial. Ça vous tirait d'affaire un nombre incalculable de fois. En tout cas, messieurs. Parce que très souvent, la question piège, c'est ça. Vous rencontrez quelqu'un, et puis d'un seul coup, elle ferme les yeux, elle dit « Est-ce que tu m'as bien observé ? Alors, de quelle couleur sont mes yeux ?» Crac. Vous avez une chance sur trois de vous planter. Même plus. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez du coup dire, de façon lévinassienne, et en toute mauvaise foi, saisi par notre rencontre, je ne te voyais plus. Je n'ai pas vu tes yeux puisque j'étais absorbé par ton regard. Et boum ! Bon voilà, c'est juste, vous avez en plus une note pratique et parfaitement misogyne. Très bien. Bon, enfin on voit bien ce qu'il veut dire. Un visage, c'est pas un composé d'yeux, nez, bouche, hein. C'est bien plus que cela. Et quand vous regardez le petit grain de beauté ou le petit bouton sur le nez de votre voisin, c'est que vous ne regardez pas son visage. Donc il y a une nudité du visage, nous dit Lévinas. Le visage est exposé, il est menacé. Ça, c'est vraiment une idée extraordinaire. C'est ça, c'est... On compose un visage. Souvent, on compose un visage. On essaie d'apparaître, mais on ne peut pas. C'est ça, la vulnérabilité du visage. Parce qu'on y affiche, malgré soi, les émotions les plus secrètes. Essayez de sourire pour une photo en ayant l'air naturel. Non, ça ne marche pas. Vous n'avez pas du tout l'air naturel. Essayez de faire semblant que vous trouvez quelqu'un qui vous dit des trucs complètement idiots selon vos propriétaires est intéressant. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire fin de la tristesse quand votre enfant vous raconte, enfin, quand votre grande fille vous raconte ses déboires amoureux. Non, ça ne marche pas non plus. Donc vous pouvez essayer de maquiller les émotions, elles ressurgissent, c'est ça la nudité du visage. Enfin, ce n'est pas seulement ça. Et Finkielkraut évoque tout cela d'une façon magnifique, je me permets de lire un tout petit extrait. Il parle du visage, bien entendu. On le maquille pour plaire ou abuser les regards aux aguets. Et on le porte au-devant de soi comme une confidence qu'on ignore. Ça, c'est beau. On porte son visage au-devant de soi comme une confidence qu'on ignore. C'est magnifique. Bon. Chacun veut apprivoiser son propre visage, s'en servir comme d'une arme, en faire un sortilège ou une surface impénétrable. Chacun veut dissimuler ses noirceurs dans la perfidie d'un sourire, ou ses chagrins dans un air réjoui. Mais antérieur à la dualité du caché et du découvert, il y a la nudité du visage. Le visage de l'autre est nu avant d'être factice ou authentique, pittoresque ou banal, séduisant ou repoussant, nudité que nul vêtement n'habille. Partie la plus inaccessible du corps et la plus vulnérable. Transcendance et dénuement. Non ? Transcendance et dénuement. C'est-à-dire, alors pourquoi transcendance ? Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça de façon honteusement pompeuse ? L'autre comme transcendance fondatrice. Alors fondatrice, c'est le fondement. Fondement de quoi ? On va le voir, ben de soi-même, évidemment, mais pas de soi-même. C'est ça le problème. Lévinas va dire que par le visage d'autrui, par autrui, dans une vraie relation, j'échappe à moi-même, c'est-à-dire à cette espèce d'auto-centrement que j'ai en permanence. Justement, quand j'essaye de reconnaître en l'autre des choses que je projette en lui. Ah, t'es bien comme ton père. Ah, t'es... bon, voilà, etc. C'est-à-dire, je veux reconnaître toujours... C'est ça, c'est le même. Et pour Lévinas, alors Lévinas est très abstrait, mais le même, c'est la guerre. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est toujours ramener à ce qu'on connaît, une identité nationale qu'on veut assumer. Qu'est-ce que c'est que... voilà, la même-té, c'est ce qui va toujours provoquer le conflit. Je ne reconnais pas l'autre parce que je veux y voir le même que moi. Et il n'est jamais pareil. Donc, tant que je suis dans cette dimension-là, je m'interdis de saisir l'autre. Je veux toujours y reconnaître quelque chose de moi. Je le force. Je suis dans le moi-même projeté sur l'autre. Mais ce n'est pas l'autre. C'est toujours moi. Et la seule façon d'échapper à autrui, c'est quand, justement, par sa vulnérabilité, par lui, il réussit à m'extirper de moi-même. C'est pour ça que c'est une transcendance. D'un seul coup, je découvre autre chose que mon moi. Je découvre vraiment quelqu'un. Alors, expliquons. Autrui, par son visage, cette fois-ci, n'est pas un personnage dans un contexte. Il n'est pas dans un contexte. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour vous vendre quelque chose ou qui... C'est vraiment quelqu'un. Mais en tant que tel, on pourrait presque aller jusqu'à dire, comme Lévinas, que le visage n'est pas vu. Il est ce qui ne peut pas devenir un contenu qu'une pensée réussirait à embrasser entièrement. Il est un peu au-delà. Alors, encore une fois, le même, c'est quoi ? C'est rechercher toujours une adéquation. Quand vous dites, par exemple, à quelqu'un, « Tiens, comment tu fais pour jouer si bien du piano avec tes gros doigts ?» J'ai arrivé, des pianistes comme ça qui jouent superbement, mais ils ont des gros doigts, on se dit, « Pas possible, d'habitude, on se dit, les pianistes ont toujours des doigts hyper élancés, comment il fait pour jouer aussi vite avec des gros doigts ?» Dans ces cas-là, voilà, vous rattachez au même, à une image célèbre. Ben, le pianiste doit être comme ça. Bon, tiens, là, il n'est pas comme ça, ça me gêne. Ou alors... on ne regarde pas autrui comme on remarque une musculature saillante ou des bains solides. Hein. On dit souvent, par exemple, tiens, il est étonnant qu'il soit si doux avec son air si rustre. Bon. Mais dans ces cas-là, c'est toujours rattacher le même au même. Je m'attends à trouver quelque chose. Et quand, justement, j'ai autre chose, ben là, pouf, j'ai l'autre. Alors, le rapport au visage de l'autre est aussi, nous dit Lévinas, éthique, d'emblée éthique. Le visage est ce qui nous interdit de tuer. Il m'inhibe lorsque je fixe ses yeux désarmés. Alors, les récits de guerre, on le sait, nous montrent bien qu'il est beaucoup plus difficile de tuer quelqu'un qui vous regarde. Le visage excède mon pouvoir, il me résiste, il m'oblige. On met des bandeaux aux condamnés, dans les films, on fait se retourner celui qu'on veut exécuter, etc. Pourtant, le meurtre en lui-même est un fait banal. On peut tuer autrui. Et même en cas de guerre, on y est autorisé, nous dit Lévinas. Sinon, invité. Alors, il dénonce tout cela, évidemment. Mais le visage d'autrui est ce qui, par excellence, dit « tu ne tueras point ». Alors, évidemment, on pourrait objecter que cette façon de considérer autrui n'a lieu que dans certains cas. Dans d'autres, le plus souvent, et même le plus souvent, la rencontre se fait sur le mode du dédain ou même parfois de la violence. Mais, nous dit Lévinas, et c'est ça le clou, cela n'enlève rien à son analyse puisque c'est toujours la soumission à la nudité du visage d'autrui qui est première. L'innocence, nous dit Lévinas, est première. C'est parce que j'ai d'abord compris ce qui était autrui qu'après je peux essayer, parce que je le fais toujours, de le transformer en même, en quelque chose qui vient de moi. Mais il y a eu d'abord, souvenez-vous quand vous étiez tout petit et que vous étiez scotché au visage de votre mère, cette innocence première, cette découverte absolue de l'autre. Alors, juste pour l'illustrer, Lévinas dit « en ouvrant une porte, on dit « après vous ». Et on pourrait dire qu'en quelque sorte, la pensée de Lévinas, c'est un « après vous » originel. On pourrait même dire, si on voulait vraiment caricaturer Kant, que c'est un « après vous » transcendantal. C'est-à-dire que c'est « après vous ». Véritablement, on découvre quelque chose de cet ordre. Alors, pourquoi vais-je aussi loin ? Zut, j'avais trouvé un excellent exemple, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, mais voilà pourquoi. Non, c'est pas ça. Dame Ned. Bon, je voulais vous parler de mon fils. C'est le meilleur exemple. Il a 1 an et demi, et là, on découvre vraiment la puissance du regard. Si vous voulez, c'est vraiment ça. C'est l'idée que il y a une sorte de rupture, il y a une nudité absolument profonde. Quand vous avez un enfant, voilà, c'était ça, le visage de l'enfant. Il vous contemple, beau et innocent. Il est confiant. Il a confiance en vous. Et du coup, il est vulnérable. Qu'est-ce qu'on a là ? On a exactement une invitation à ne pas lui mentir, à ne pas lui faire violence, à ne pas le décevoir. Parce que dans son dénuement, il se soumet à vous. Il est complètement abandonné à vous. Il vous fait absolument confiance. Alors c'est extrêmement facile de mentir à un enfant. Et pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que justement, il est cette confiance même en vous. Et dans un sens, justement, c'est ça le pire. Si, pourquoi est-ce que vous êtes extrêmement contrarié quand vous décevez un enfant ? Eh bien simplement parce que vous contribuez à lui faire découvrir le mal, le mensonge, etc. Lui, il ne s'attend pas à ça. Au départ, il n'a même pas l'idée de vous mentir. Il est complètement abandonné à vous. Il vous regarde. Et puis d'un seul coup, vous décidez, je ne sais pas, de vous en débarrasser au sens de « va dans ta chambre », etc. Il est extrêmement déçu, il voulait vous parler, il vous montrait son dessin, et boum, vous êtes avec des invités, vous lui dites « allez, dégage, fous-nous la paix ». Et boum, d'un coup, vous regrettez, parce que vous voyez la déception dans son regard. Voilà la nudité d'un visage. Voilà à quel moment on voit pourquoi le rapport à l'autre est directement éthique. Alors je sais, ça peut sembler un petit peu cucu. Lévinas, ça peut sembler cucu. Quand on le prend comme ça, on peut se dire « mais oh là, l'autre, le visage, c'est magnifique, l'éthique ». Mais il me semble que c'est terriblement vrai. C'est-à-dire qu'avant même la violence exercée sur autrui, il y a d'abord ce rapport innocent, et ce rapport profond, qui est sous-jacent, qui est premier. Et, pourrait-on dire, alors, on pourrait tenter une métaphore indienne et dire que le visage parle. Jeu de mots pas terrible. Mais Lévinas parle de ça, le visage parle. Ouais, visage pâle, pour ceux qui n'ont pas compris. Pas terrible. Mais, Lévinas ajoute sur tout ceci, il est ce qui rend possible le discours. Et Lévinas, du coup, distingue le dire et le dit. Alors, le dit, c'est le contenu du discours. Le dire, c'est le fait même de dire. Et, alors, certes, le dire doit comporter un dit. On ne peut pas parler sans qu'il y ait un minimum de contenu. Mais, quoique ce n'est pas tout à fait vrai. Ça va, c'est un dire sans contenu, dans un sens. Mais le dire, c'est le fait que, devant le visage, je ne reste pas là simplement à le contempler, je lui réponds. Et si, du coup, je refuse de lui répondre, je me fais violence en même temps que je lui fais violence. C'est dur de ne pas répondre à quelqu'un qui vous parle. T'as bien dormi, vous décidez de ne pas lui répondre. Vous le regardez. vous souffrez aussi. On peut s'en rencontrer encore mieux dans un ascenseur. Autrui, c'est vraiment une invitation à la parole, au décloisonnement, à sortir de soi. Parfois, c'est même gênant. Dans un ascenseur, vous supportez pas de prendre l'ascenseur sans dire quelque chose à quelqu'un. On est là, parce qu'on a la présence d'autrui fait qu'on a envie de parler. On veut se décloisonner, mais on n'a rien à lui dire, on ne le connaît pas. C'est dur, c'est une expérience quasi métaphysique, l'ascenseur. On a envie de parler, il nous invite à parler, au fond, et le plus dur, c'est de se taire. Ma femme décrivait ce matin, alors là, c'est vraiment une anecdote extrêmement fraîche, qu'il y a eu une coupure dans le métro, et d'un seul coup, tout le monde, le wagon était plein, enfin, il était vraiment encombré, et d'un seul coup, tout le monde s'est tu. Et tout le monde a eu l'air extrêmement mal à l'aise. Alors, on pourrait dire, c'est génial, ouf, enfin, ils arrêtent de raconter leur vie. Pas du tout. Il n'y avait plus de lumière, et les gens étaient là, ils se taisaient. Et ma femme a dit que ça a été une impression de malaise absolue. Bon. J'avais un petit excursus. Très beau texte de Merleau-Ponty. Il parle de la nécessité du dialogue comme forme essentielle à autrui. Bon, alors je vous dis en substance ce qu'il dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon on n'aura pas de temps pour les questions. Ce que nous dit Merleau-Ponty, et c'était une façon de dévier un petit peu, il nous dit que dans un dialogue, là on peut aussi, dans un dialogue authentique, on voit tout de suite la différence entre un dialogue authentique et un dialogue inauthentique. Le dialogue inauthentique, c'est celui où vous comptez les points. Alors il a dit ça, puis après j'ai dit ça. Ah là je l'ai mouché. Ouais, mais il m'a bien répondu quand même. Bon, c'est le moment où chacun, comme un jeu de ping-pong, peut reconnaître ce qu'il a dit et ce que l'autre a dit. Ah, je lui ai dit ça, et ensuite je lui ai dit ça, et ensuite il m'a dit ça. Bon. Ça, c'est souvent aussi, on entend les jeunes au téléphone qui disent, et je lui ai dit, et il m'a dit, et je lui ai répondu, et il m'a dit. Bon, il rajoute en plus, et tout. Ça, c'est plutôt pour, et tout à chaque phrase. Il m'a dit ça, et tout, je lui ai dit ça, et tout. Bon, et tout, je suppose, ça peut vouloir dire absolument tout le reste de ce que j'ai pas dit, mais donc ça rajoute une sorte d'illusion de profondeur extraordinaire. Bon, c'est surtout un tic de langage. Mais le dialogue authentique, celui de. Si possible, ne dites pas « et tout » dans ces cas-là. Le dialogue authentique, c'est celui où, justement, il y a une fusion. C'est-à-dire vous entrez dans la conversation et on ne sait plus qui a dit quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul tissu. C'est-à-dire que le dialogue authentique, c'est celui où, d'un seul coup, il y a une effervescence. « Ah oui, mais t'as raison, on se reconnaît dans l'autre, l'autre se reconnaît dans soi. » Et finalement, il y a quelque chose qui va... c'est d'ailleurs indescriptible, dans un sens. Il y a quelque chose qui va prendre. Quoi. Et d'un seul coup, vous pouvez parler jusqu'au bout de la nuit parce que vous ne faites plus qu'un. Il y a un dialogue comme ça, quelque chose de passionnant. Et on n'est pas là à la fin pour dire « c'est moi qui ai finalement dit le plus grand nombre de choses intelligentes ». Pas du tout. Dans ces cas-là, ça n'a plus d'importance. On sent que là, on sent le rapport à autrui. C'est à la fois une fusion et en même temps, il y a bien la prise en compte de ce qu'il dit et de la différence pour progresser dans le dialogue. Ça me semble être une très belle façon d'illustrer un petit peu ce que nous dit Lévinas. Bon, allez, concluons. Donc, si on essaye, en quelques mots, de résumer... L'autre n'est pas n'importe quelle réalité dans le monde extérieur. Il ne figure pas parmi les objets qui se présentent à une conscience. L'autre est lui aussi sujet de conscience. Rencontrer autrui, c'est donc rencontrer une altérité. C'est se frotter à la différence. On ne peut pas rencontrer l'autre, enfin, on ne peut rencontrer finalement l'autre que dans le monde réel, le monde commun qu'il nous faut partager avec lui et qui ne se révèle dans toute sa profondeur que par cette confrontation. Du coup, rencontrer l'autre, c'est renoncer à sa toute-puissance. Et le rencontrer dans sa vérité, c'est parvenir à respecter l'unicité de l'autre, sans dévaloriser la sienne, mais dans une espèce d'effort qui permet l'évolution et qui est une nécessité, on l'a vu, pour la constitution même de notre être. Alors, l'enfer, est-ce les autres ? Non. Au moins pas que. L'enfer, c'est la clôture sur soi qui ne permet pas de voir en l'autre ce que l'on ne constate pas en soi. L'enfer, c'est autrui dans son acception, généralisante, autrui. Tandis que l'autre, c'est la possibilité d'une ouverture vers le monde éthique et en retour vers soi.